et bonsoir. Vous êtes sur la courte échelle 88.4 tous les dimanches soirs de 19h à 20h. C'est une émission de radio pour parler d'enfermement, pour parler de prison, de garde à vue, de centre de rétention, d'enfermement hôpital psychiatrique. Voilà. Et ce soir, on est plein dans le studio. On n'a pas de fixe pour nous appeler, toujours pas à galère, mais il y a le portable de parloir libre qu'on nous prête généreusement. Et donc, vous pouvez nous joindre au 07 74 66 10 42. Voilà. Vous pouvez nous écrire. On adore recevoir du courrier et on y répond avec plaisir. C'est au 12 rue François Simon. 12 rue François Simon, 13003 à Marseille, à Radio Galère, Friche de la Belle de Mai. Et la courte échelle a aussi un mail. On peut nous envoyer des mails à la-courte-échelle@riseup.net, sans accent. Et donc ce soir, on est plein. À côté de moi, il y a Gaïa.
Ciao.
Il y a Maria.
Salut.
Il y a Greg.
Salut.
Il y a Liane.
Coucou.
Charlie.
Nelly.
Et Syl, qui font la technique, et moi, Louise. Ce soir, on a une émission qui est dense. Et oui, il y a plein de monde dans le studio aussi, autour de nous. Mais... Ah oui, pardon. On va faire une émission qui va parler du 41 bis et puis de la narcotrafic en France. Et ben, peut-être que je vous laisse la parole pour introduire le sujet.
D'accord. Et du coup, on avait envie de commencer à parler un peu de cette nouvelle loi anti-narcotrafic qui est en cours de discussion. Du coup, la loi est encore en train d'être discutée. Il y aura sans doute des modifications qui vont être apportées. Mais ça nous semblait urgent de commencer déjà un peu à en parler, à réfléchir à tous les trucs de merde qui nous préparent pour les prochaines années. Du coup, c'est cette loi qui viserait à sortir la France du piège du narcotrafic. Alors, cette rhétorique du narcotrafic, on l'entend déjà depuis plusieurs années, plusieurs mois à Marseille. Et notamment, en novembre de l'année dernière, le duo Retailleau-Migaud, du coup Retailleau à l'époque ministre de l'Intérieur et Migaud à la Justice, était déjà venu à Marseille et au Baumettes pour présenter un plan d'action contre la criminalité organisée. Donc, d'après eux, le fléau du narcotrafic... dans leur rhétorique, le fléau du narcotrafic serait un espèce de cheval de Troie, au final, pour proposer des mesures répressives de plus en plus dures et des conditions d'emprisonnement encore plus inhumaines que celles que les prisonniers et les prisonnières vivent déjà. Et ce projet de loi, du coup, il a été rédigé par deux députés, un des Républicains et un du PS, donc pour dire à quel point c'est un projet de loi qui vraiment unit la droite et la soi-disant gauche au gouvernement et qui reprend un travail qui avait été commencé par Dupond-Moretti. Et il a été repris du coup par Migaud et là il est porté par Darmanin qui est maintenant garde de sceaux du nouveau gouvernement et il a été voté à l'unanimité sauf un député du centre qui miskin il s'est endormi pendant la discussion et du coup quand il s'est réveillé il a voté contre du coup force à lui qui a quand même voté contre ce projet de loi. Et donc le texte, il a été adopté au Sénat et maintenant il est en cours de lecture et discussion à l'Assemblée nationale. Donc entre le mois de février-mars et la discussion, elle a commencé à l'Assemblée nationale le 4 mars. Donc c'est vraiment un sujet de grande actualité. Du coup, entre le moment où ce projet de loi il a été conçu et le moment de sa discussion, il y a eu des changements de gouvernement, mais à la base, on a des mêmes intérêts. Donc Darmanin, nouveau ministre de la Justice, début janvier, il revient au Baumettes et là, il tient encore une fois un discours contre le narcotrafic en disant c'est vraiment urgent d'approuver cette loi et de la mettre en place. Et on verra qu'il a aussi pensé de rajouter une pépite auquel ses collègues n'avaient pas pensé avant. Et entre-temps, ce qui s'est passé, qui a un peu aidé aussi à créer ce climat d'urgence autour de la question du narcotrafic, c'est que la directrice des Baumettes et ses adjoints ont dû être éloignés car ils ont été menacés sur les réseaux sociaux par un narcotrafiquant. Et il y a eu deux interpellations de deux personnes qui auraient été arrêtées et cagoulées dans les alentours des Baumettes. Donc voilà, ça a permis de créer dans les médias un climat de peur et d'urgence et de, du coup de pousser cette rhétorique de la terreur.
Il y a eu aussi l'évasion là au péage. T'allais en parler,
pardon. Non, vas-y.
Ah, l'évasion au péage du coup avec trois surveillants qui avaient été tués.
Greg, c'est cool si tu parles dans le micro comme ça.
Ouais, mais le micro il est pas en face de moi. Non, du coup je parlais aussi. Il y avait aussi l'évasion du coup qu'il y avait eu de, j'ai oublié le nom du gars qui s'est fait attraper en Roumanie là, il y a quelques jours.
Mohamed Amra.
Voilà, c'est ça. Et du coup il y avait quand même trois surveillants pénitentiaires qui avaient été tués.
Ouais, qui a permis du coup à l'AP de pleurnicher, aux surveillants de pleurnicher sur leurs dures conditions de travail, et surtout qui maintenant, comme par hasard, au moment où Darmanin vraiment il profite au max de ce climat de peur et d'urgence, il a été arrêté en Roumanie et du coup on en parlera plus tard. Mais oui, carrément, effectivement, ce personnage il a joué un rôle un peu clé dans les médias sur comment cette loi elle a été aussi présentée comme une solution. Et donc voilà, toute cette rhétorique, elle sert en gros à faire passer et accepter aussi dans l'opinion publique une loi qui, à la base, ne vise pas seulement ces fameux narcos, mais en fait, c'est une loi qui réprime une certaine population, une population qui habite dans certains quartiers et une certaine classe sociale. Et ça, on le voit très clairement dans les mesures qu'elle propose. Donc peut-être pour rentrer un peu dans le vif, on a essayé de regarder un peu certaines mesures, sachant que, enfin, déjà, elles sont hyper difficiles à décortiquer pour des personnes qui ont un peu le lexique des politicards. Mais, enfin, voilà, c'est intéressant de commencer à en parler, d'y réfléchir et surtout de réfléchir aux stratégies un peu pour les contrer. Donc, au niveau pénal, cette loi elle prévoit la création d'un parquet national anticriminalité organisée. Donc l'intérêt serait de centraliser et nationaliser la gestion des affaires, et pas que sur le narcotrafic, mais en général sur ce qui est appelé un peu la délinquance économique. Donc c'est ça va réprimer toutes ces manières de se faire de la thune quand on galère et ça permettra en fait d'incarcérer de plus en plus de gens qui appartiennent à certaines classes sociales et qui du coup seront encore plus visés par ces mesures. Et aussi en termes de répression, il y a un élargissement de la garde à vue pour les mules, pour les personnes qui du coup transportent les stupéfiants, qui pourrait être élargi à 96 heures ou à 120 heures selon l'avis d'un médecin qui du coup est censé juger de la possibilité d'élargir donc la garde à vue. Et aussi ça rajoute la possibilité des expulsions locatives si on a été condamné pour des délits liés aux stupéfiants. Donc c'est quelque chose qui vise non seulement les personnes mais des familles entières et qui permet du coup une véritable répression de classe. Et il y a deux aspects aussi qui touchent non seulement, enfin qui touchent au sens large, donc à la question de la criminalité organisée et pas que au narcotrafic. Donc déjà, on a introduit le délit d'appartenance à une organisation criminelle et ça c'est nouveau et on utilise aussi une formulation qui est très très floue. On dit dans le texte de la loi qu'on punit le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou à la direction d'une organisation criminelle. Et si on est condamné pour ce délit, donc on peut avoir une peine de 10 ans et jusqu'à 150 000 euros d'amende. Ce qui est vraiment merdique dans ce nouveau délit, c'est que ce n'est pas un lien avec des effractions, mais on veut punir l'intentionnalité de l'individu. Et surtout, on est sur vraiment des définitions hyper floues parce que on se demande bien ce que ça veut dire de façon fréquente ou importante. Enfin, en fait, il suffit d'avoir eu un contact avec une personne qui est fichée pour appartenir à une organisation criminelle pour se voir coller donc ce délit. Et des mêmes, on a un alourdissement de peine pour l'association des malfaiteurs. Donc, qui passe de 10 à 15 ans d'emprisonnement et qui joue donc comme circonstance aggravante d'un des délits punis par cette loi. Et ce qui aussi est prévu du point de vue pénal, c'est la révision du statut du repenti. Donc en fait, si on décide de collaborer avec donc les juges et les procs. On a soit des exemptions, soit des réductions de peine, et on étend donc cette notion de répentir, ce statut de répentir, donc les privilèges qui vont avec, non seulement à la prévention d'un crime, mais ou à la possibilité de punir un crime, mais plutôt à la préparation d'un délit et d'un crime. Donc encore une fois, on va punir plutôt l'intentionnalité que le flagrant délit. En termes de, enfin, après, cette loi, elle prévoit aussi plein d'outils qui permettent à la justice et à la police d'assurer l'emprisonnement de plus en plus de gens, et en termes de techniques d'enquête et en termes de moyens de détention. Donc déjà, comme un des problèmes qu'ils rencontrent du coup les flics et les juges, c'est que les gens arrivent à sortir sur des vices des procédures. On a bien pensé d'introduire dans cette loi l'idée du dossier coffre. Donc c'est quoi ? C'est en gros une mesure qui permet de coffrer le dossier. Donc il y a tout ce que dans le dossier concerne la mise en place de techniques de surveillance serait donc accessible que aux juges, aux procs et aux enquêteurs, et pas à la défense. Donc la défense, elle devra construire son dossier que à partir sans avoir accès à ces PV. Et donc c'est vraiment un des points qui a été le plus repris aussi par le syndicat de la magistrature et par les avocats et les avocates en général, parce que ça crée vraiment une inégalité fondamentale dans l'accès à la défense pour les prévenus. Et un autre aspect c'est vraiment dur pour les personnes du coup en détention, c'est le fait qu'on rallonge les délais pour les DML, pour les demandes de mise en liberté. Donc déjà, on rallonge le délai dans lequel les juges doivent répondre à ces DML de 4 à 6 mois. Et surtout, on introduit le fait qu'on ne peut pas poser une deuxième DML tant que l'appel de la DML précédente n'a pas été traité. Donc ça fait qu'en fait, on rallonge ces temps de manière assez importante, et on réduit la possibilité d'être libéré. Après, il y a aussi des mesures qui concernent plus les renseignements. Alors sur ça, c'est plein de nouvelles mesures qui concernent aussi le numérique. Du coup, ce serait vraiment intéressant de s'y pencher plus avec des gens qui s'y connaissent un peu plus en numérique. Alors moi, c'est déjà beaucoup si j'arrive à allumer mon ordinateur et à me souvenir du mot de passe, mais quand même. Juste pour lister quelques trucs vraiment dégueulasses. Il y a dans la loi l'accès aux messageries chiffrées, avec l'introduction d'une obligation à créer des backdoors pour la police et les enquêteurs pour toutes les applis genre Telegram, Signal, WhatsApp, tout ça, sous peine d'une sanction si on ne le fait pas. Et aussi la généralisation de l'activation à distance d'objets connectés et l'utilisation de logiciels espions genre Pegasus et tout ça, tous les trucs de merde qui sont développés aussi en Israël et utilisés par les États impérialistes et génocidaires. Et l'extension de l'utilisation des boîtes noires, donc ces techniques de renseignement qui analysent en gros les données des communications et des recherches sur Internet pour soi-disant détecter des nouveaux suspects, qui ont été généralisées, introduites en 2015, donc suite aux attaques au Bataclan et tout ça, plus qu'aux moyens de l'antiterrorisme, et qui là sont généralisées aussi à la question du narcotrafic. Pour en venir à la détention, enfin aux conditions de détention, et après j'arrête ma liste, il y a la question de l'extension de la détention provisoire par le GLD pour des délits qui sont liés aux stupéfiants. Donc il n'y a plus de limites fixées, mais en fait c'est le GLD qui peut décider de prolonger cette détention provisoire s'il s'agit d'un cadre qui rentre dans la loi anti-narcotrafic. L'autorisation à l'utilisation des drones à l'intérieur des enceintes pénitentiaires pour surveiller les prisonniers, même dans leurs cellules. Alors, normalement, le code pénal, il prévoit que les matons, ils peuvent pas sur, enfin, ils peuvent pas filmer dans le domicile des gens. Donc, étant donné que la cellule est considérée le domicile des prisonniers, prisonnières, normalement, ils peuvent pas filmer dedans. Sauf que là, cette loi, elle introduit encore une fois une clause très, très vague et autorise l'utilisation des drones dans les cellules en cas d'accident grave qui mettrait en danger la sécurité de l'ensemble pénitentiaire. Alors, en gros, du point de vue des matons et des matones, bah, tout peut être considéré un accident grave. Et donc, vous voyez bien que, en fait, l'utilisation des drones, elle peut être généralisée et légitimée. Ensuite, il y a... je pense que c'est très important d'en parler, de se poser la question, parce que ça touche du coup à tout ce qui est la solidarité avec les personnes enfermées. Parce qu'on introduit du coup... on précise le délit d'effraction. Et on punit non seulement le fait de soit rentrer dans l'espace pénitentiaire, dans l'enceinte pénitentiaire ou escalader l'enceinte pénitentiaire, mais aussi le fait de se trouver à l'intérieur d'un espace pénitentiaire, qui est une définition encore une fois très très floue. Donc ça veut dire en fait, si on fait un rassemblement devant la tôle, on peut être puni avec 6 mois de prison et encore une fois une amende de plusieurs milliers d'euros, ce qui en gros voudrait, c'est une mesure qui espère décourager toutes les formes de solidarité qui peuvent y avoir avec les prisonniers et les prisonnières devant les murs des prisons. Et il y a la question aussi des caméras embarquées dans les fourgons, un peu en lien avec ce que tu disais, du coup l'évasion au péage pour assurer plus de sécurité aux matons. Et donc ça, c'était les mesures qui étaient un peu prévues depuis le début. Et Darmanin, il a pensé qu'il fallait qu'il rajoute un peu une touche personnelle. Et du coup, ça fait quelques mois qu'il insiste sur... cette nouvelle proposition qui irait, enfin, ce serait un amendement de la loi anti-narcotrafic qui est la création des prisons pour narcotrafiquants. Et peut-être je passe la parole à ma collègue.
Wow, c'était intense déjà. Merci pour tout.
Mais oui, du coup, pour ce qu'on a pu un peu. Voir, la proposition en fait de Darmanin par rapport aux prisons de haute sécurité, déjà il précise que qu'elles doivent servir à couper le détenu du monde, donc régime d'isolement hyper strict qui se base aussi sur le fait que il faut éviter toutes les sorties possibles. Donc par exemple il parle de procès en visioconférence pour les détenus qui sont dans ces prisons-là, fouilles systématiques après les parloirs, pas d'UVF, et il propose 4 ans de détention dans ce type de prison-là, d'enfermement dans ces prisons-là, renouvelables tous les 4 ans, du coup, et pas que pour les condamnés, mais aussi pour les prévenus. C'est un peu une autre partie de la rhétorique autour de l'histoire de Mohamed Amra, qui disait en fait cette personne, ce détenu-là était prévenu, on n'a pas mis les moyens qui étaient nécessaires. En fait, il faut élargir ce type d'isolement et de contrôle strict sur ces détenus dangereux, aussi quand ils ne sont pas que condamnés, pas que pour les condamnés. Il parle les dernières annonces, donc la dernière, quand il a pris la parole officiellement pour annoncer c'est quoi les 2 prisons de haute sécurité prévues d'ici fin juillet. Donc il a parlé de Vendant-le Vieil, et qui devrait être active comme prison active d'ici le 31 juillet, et qui devrait accueillir les premiers 100 narcotrafiquants, comme ils appellent les détenus qui vont être amenés là-bas, et Condé-sur-Sarthe, où il y a du coup Mohamed Amra, parce qu'il a vraiment poussé sur cet élément-là, justement, de la rhétorique contre le narcotrafic, pour choisir cette prison, qui devrait être prête d'ici le 15 octobre, et qui devrait accueillir 100 autres détenus les plus dangereux de France, comme toujours. Pour utiliser les mots de Golas qu'il utilise. Mais à la base, l'idée, c'est de du coup arriver à... Il a parlé de préparer de 4 à 7 autres établissements de ce genre d'ici 2027 pour arriver à enfermer 600-700 détenus avec ce statut-là. Et d'ailleurs, il parle, bah, je ne sais pas si c'est lui qui l'a annoncé, mais on parle d'un investissement de 4-5 millions pour adapter en particulier les deux sites de Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil. Je ne sais pas, en fait, moi je pense que c'est important de souligner en tout cas que les mesures que Darmanin annonce par rapport à ces prisons de haute sécurité officialisent structure des mesures d'isolement extrêmes, très dures, qu'il voulait du coup mettre en place, mais qui sont en vrai déjà présents. En fait, ils sont déjà mis en place contre des détenus justement qui sont considérés particulièrement dangereux, même si d'une façon plus informelle et pas structurée par une loi. Et c'est grâce en fait aux témoignages et aux luttes des détenus à l'isolement et au mitard qu'on apprend tout ça. Et par exemple, par exemple, le même cas de Mohamed Amra, le même Darmanin, il a dit que depuis que Amra a été rattrapé, il a été amené du coup à Condé-sur-Sarthe sous un régime d'isolement qui rassemble beaucoup à tout ce qu'il propose par rapport à la prison de haute sécurité, même si c'est pas encore acté c'était pas encore acté qu'il y avait cette prison là et qu'il allait être comme ci et comme ça. Et par exemple, Darmanin dit que Mohamed Amra il est en isolement avec une heure de promenade par jour, seul, donc il a pas le droit de rencontrer les autres prisonniers. Il a 2 heures d'appel écouté. Il est surveillé 24 heures sur 24 et il a du coup il va avoir un procès en visioconférence et du coup si on pense par exemple au cas à d'autres situations d'autres détenus qui sont particulièrement considérés comme particulièrement dangereux et dans les prisons concernées par cette nouvelle loi et ce nouveau amendement. Il y a par exemple le cas aussi de Redouane Faïd, qui du coup est enfermé à la prison de Vendin-le-Vieil et qui est du coup, et qui d'ailleurs a fait une grève de la faim, je pense, d'une semaine, peut-être un peu moins, en décembre. Justement pour demander la fin de l'isolement auquel il est soumis depuis 11 ans et aussi la levée de la mesure IGAFON à laquelle il est soumis aussi depuis 6 ans et son droit à l'UVF, donc toute une série de choses qui lui sont niées, qui sont interdites et qui rassemblent beaucoup du coup à un régime d'isolement très strict qui devrait du coup être élargi à toute la population de ces prisons de haute sécurité, mais qui du coup, pour dire qu'il a déjà mis en place contre toute une série de prisonniers. Et du coup, justement pour donner la parole, pour revenir un peu sur ça, on a pensé de lire un témoignage, une lettre qui Redouane Faïd a écrite en mars 2024, août 2024. Ah non, mars 2024 est apparu dans le numéro de l'envolée de août 2024. Et voilà, où justement il raconte les conditions auxquelles il est obligé, soumis. Voilà.
Oui, c'est ça. Et juste pour redire, Redouane Faïd, il s'est fait la belle le 1er juillet 2018 à la prison ultra sécurisée de Réau. Et tout ça en 7 minutes 33 par hélicoptère, ce qui a été grave humiliant pour l'administration pénitentiaire. Et pour cette évasion, il a pris 14 ans. Du coup, on vous lit un bout d'une lettre qu'il écrit depuis le quartier d'isolement de Vendin-le-Vieil le 12 mars 2024. Les personnes privées de liberté ont eu une souffrance. On n'ose pas leur demander comment elles ont fait pour traverser l'absurdité carcérale sans que leur visage n'emporte ni cicatrice ni marque profonde. On les soupçonne d'avoir revêtu l'apparence de la mort bien avant que ce n'en soit l'heure. Les personnes privées de liberté subissent les outrages de la nature humaine et de l'abandon de façon disproportionnée. Il en va de même pour les enfermés dans les mitards et les quartiers d'isolement, QI. Ces cellules d'extermination sociale que l'on ne veut pas abolir. Voir l'explosion des tourments de l'âme au quotidien, ses voisins qui deviennent fous, une expérience du désastre, un huis clos où chacun vit cloîtré dans sa mélancolie, des instantanées de misère humaine où le temps se bloque, comme un voyage en enfer où les nuits ne sont plus des nuits, où les jours vous consument. Une impression de vivre plusieurs fuseaux horaires différents, une agressivité de toutes parts qui vous fait prendre conscience que votre vie est en jeu. On ne se sent pas à sa place malgré le temps qui passe. Mais y a-t-il un endroit en prison où on se sent à sa place en réalité ? L'isolement cognitif et sensoriel est une mort lente, une torture physique et mentale, des divagations désespérées, un confinement lourd et cruel qui fendent la vie à la hache de votre désespérance. Ça tape fort sur tout le monde. Pourquoi les être enfermés se foutent en l'air ? Parce que cette oppression carcérale a totalement assombri leur horizon.
Et on voulait vous lire aussi un deuxième extrait d'une autre lettre de Redouane Faïd, qui a été aussi publiée dans le même numéro de l'Envolée, numéro 60. C'est une lettre qui est datée du 25 juin 2024 et qui décrit aussi un peu les sentiments que provoquent les Allemands. Donc Redouane Faïd qui dit « Il y a de la colère et de la souffrance en prison. Cela se traduit par de l'agitation, mais surtout par des dégâts irréversibles sur la santé mentale qui fout le camp. Tout le monde, absolument tout le monde, tire la sonnette d'alarme. On est en face d'un dysfonctionnement sanitaire sans précédent. L'état des lieux de la santé mentale est sans cesse reporté, car il fait peur et que personne ne veut assumer. Il dévoile l'absurdité, les troubles sévères de l'enfermement, le taux de suicide, l'ennui systématique qui rend fou et qui tue, la conscience qui se désintègre. C'est bien connu. Les modes de confinement trop poussés s'assimilent à de la maltraitance mentale. Les mecs deviennent dingues, putain. La personne est enfermée. Par essence, c'est dur. Tu viens dans un monde méconnu où tout est inversé. Le déséquilibre s'impose en toi. Ça peut te casser, à minima te fragiliser, te faire te replier dans le mutisme. Tu perds ta légèreté, tes acquis, ta confiance en toi. Chaque être emprisonné ressent une solitude qui résonne en permanence, qui inquiète. Impossible d'expliquer tout ce bordel. Les gens sont condamnés à l'errance mentale, à vivre reclus dans leur tête. C'est comme si on t'arrachait à vif les neurones. Juste pour dire, les deux prisons, la Vendamme-Vieille et Condé-sur-Sarthe, je pense que c'est les deux rares prisons, les deux seules prisons peut-être qui sont pas en surpopulation, du coup, parce qu'il y a beaucoup d'origines d'isolement comme ça. Et il y a aussi, à Vendamme-Vieille, il y a aussi Fabrice Borromée, qui est un vieux correspondant de l'Envolée, qui était rentré, je pense, pour 8 ans, pour une peine de 8 ans, qui est un Guadeloupéen qui a été transféré en France et qui, depuis, demande son transfert. Et à force, qui prend des peines internes. Et là, maintenant, il a une vingtaine d'années de plus à faire. Et notamment, il se plaint récemment là, de plein d'insultes racistes des matons. Et voilà, il y a moyen d'écrire un peu, de parler de son cas et d'alerter un peu l'atoll de Vendamme-Vieille de sa situation.
Et en parlant de l'envolée, on peut rappeler comme à chaque fois que si les personnes intérieures veulent des numéros, on peut les envoyer gratuitement, évidemment, tous les numéros que vous désirez, à part certains qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils sont interdits, mais on peut essayer de les envoyer quand même. En tout cas, il y a plein de numéros qui peuvent passer, donc n'hésitez pas à les demander.
On fait une petite pause musicale.
Ouais, on vous met un petit wesh wesh et on vous retrouve dans quelques minutes.
À tout de suite.
Ça fume, ça boit, ça tire des pédous, ça ramène tout le quartier. Pour les cramer, les infréquentables, les uns, ouais, chétanisés. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique, et ceux qui font tout rentrer.
J'suis dans les quartiers noirs, j'suis posé dans un V12. Ça fait des grosses peines, ça fait des soirées mousses. On sert le ponchon, pourtant j'te ramène douce. Ça fait traction, ça revient au prétoire. J'tanisé, ça fait une
je j'indique trop de langues de pute. On nique tous cet été, ça va chercher au feu rouge. Total indéménage.
Ça fume sa voix, ça tire des pets, tout ça ramène tout le quartier. Pour les cramer, les infréquentables, les aimes, ouais, chétanisés. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique, et ceux qui font tout rentrer. On veut se tailler, wesh, wesh, je vide à l'entrée, wesh, wesh, ceux qui mettent la cambouche, wesh, wesh, pour les trafiquantés. Elle crée la fusée, elle sait comment je m'appelle. Mais dans ma ville, ça découpe des lamelles. Mel, mel, mel. Arrive en sortant, on voit des bombes à l'une. Un PGP le soir, elle fait la caline. Je vais tout niquer parce que j'ai trop les canines. Nin, nin. Je représente tous les quartiers de France, des charbons en bas.
Les ouais.
Pour les têtes cramées, les gueules cassées sur le Yamaha.
Les ouais.
Ça met la cagoule et ça pointe à la spip. Et que ça dévie, que ça roule en gigit. Dans ta boîte, on arrive en équipe. Keep, keep,
ça fume, keep. Ça boit. Tire des pets, tout ça ramène tout le quartier. Pour les cramer, les infréquentables, les aimes, ouais, chétanisés. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique, et ceux qui font tout rentrer. On veut se tailler, wesh, wesh, je vide à l'entrée, wesh, wesh, ceux qui mettent la cagoule, wesh, wesh, pour les trafiquantés, wesh, wesh, on veut se tailler, wesh, wesh, je vide à l'entrée, wesh, wesh, ceux qui mettent la cagoule, wesh, wesh, pour les trafiquantés. Tire des pets, tout ça ramène tout le quartier. Pour les cramer, les infréquentables, les aimes, ouais, chétanisés. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique, et ceux qui font tout rentrer. On veut se tailler, wesh, wesh, je vide à l'entrée, wesh, wesh, ceux qui mettent la cagoule, wesh, wesh, pour les trafiquantés.
Salut, vous êtes toujours sur la courte échelle, 88.4, et donc on vient d'écouter Wesh Wesh, c'est aussi un peu, bah ça régale toujours Wesh Wesh, mais c'est aussi un peu une dédicace pour les collègues à l'intérieur, notamment Vivi, on pense à toi, bien sûr, voilà.
On pense fort à toi Vivi.
On a bien reçu une lettre d'ailleurs de toi, qui est bien arrivée.
Oui, de ouf. Et on peut continuer l'émission. Maria, tu voulais discuter un peu de dire d'où ça vient cette loi?
Oui, du coup, on parlait de la loi contre le narcotrafic et en particulier de la proposition de prison pour narcotrafiquants annoncée par Darmanin. Et du coup, on voulait un peu se, comme Darmanin. En début février, il est allé en Italie pour se faire inspirer par le régime du 41 bis en Italie. En fait, il a dit explicitement que cette proposition de prison de haute sécurité s'inspire d'un régime d'isolement très dur qui existe en Italie. Et comme il est allé rencontrer le ministre de la Justice en Italie pour prendre des notes sur comment ça marche, et on se disait de du coup rentrer, expliquer un peu c'est quoi le 41 bis et un peu c'est quoi la logique derrière et comment il est né pour voir un peu les éléments en commun avec la proposition de Darmanin, mais aussi parler un peu des luttes qu'il y a eu contre ce régime-là. Et donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, aussi parce que je pense qu'il y a eu une émission dédiée à raconter justement c'est quoi ce régime d'isolement et raconter les luttes qu'il y avait l'année dernière, en 2023, contre ce régime-là. À la courte échelle, c'était en octobre, novembre. En tout cas, c'est sûr que cette émission-là est sur les archives de Radio Galère de la courte échelle.
À l'occasion de la grève de la faim d'Alfredo Cospito, du coup.
Oui, c'est ça. Mais du coup, en fait, un peu, comment dire, en Italie, le régime de 41 bis, comme un peu on le disait tout à l'heure par rapport à toutes les logiques d'enfermement et de répression et d'isolement à l'intérieur des prisons, est un régime qui est né sur la base de, comment dire, une logique émergentielle qui s'est ensuite normalisée et est devenue ordinaire. C'est-à-dire que, un peu dans l'histoire de comment s'est structuré comment se sont structurées les prisons en Italie au fil du temps, il y a eu un premier moment dans les années 70 où il y avait la menace du terrorisme, la menace du terrorisme et de la lutte armée à l'extérieur des prisons. Et il y a aussi une grande saison de lutte à l'intérieur des prisons qui a commencé à structurer, qui a amené à une réforme qui a commencé à créer ce qu'on appelle le régime des prisons différenciées ou le régime différentiel, c'est-à-dire organiser les prisons selon des catégories de détenus qui sont un peu classées selon leur dangerosité et du coup adapter les prisons et les moyens de répression et de contrôle des détenus selon la dangerosité, les niveaux de dangerosité des détenus qui sont enfermés. Et donc la prison s'est petit à petit structurée comme ça jusqu'à quand, dans les années 90, il y a du coup l'émergence mafia. Et une nouvelle émergence qui du coup crée des nouvelles lois d'émergence et des nouvelles propositions de comment justement réprimer ce phénomène-là, surtout parce que c'était l'époque des gros attentats contre des juges menés par des organisations mafieuses. Et du coup, il y a la proposition qui au début ça devait être une proposition temporaire pour les années 90 et qui s'est ensuite structuré dans le code pénitentiaire italien, de ce régime d'isolement, du coup, qui s'appelle 41 bis, et qui est un régime d'isolement qui a comme qui est né, du coup, pour en particulier les détenus mafieux, et qui est un régime d'isolement qui vise à isoler complètement le détenu pour le faire céder, et du coup obtenir de sa part une collaboration avec la justice. Le premier objectif de ce régime-là, c'est du coup de couper tout lien avec tout moyen possible, le lien entre le détenu et l'organisation criminelle à l'extérieur, et le torturer, en fait, parce que c'est un régime de torture, jusqu'au point où le détenu collabore avec la justice et du coup peut prouver qu'il n'y a plus de lien avec l'organisation criminelle à l'extérieur. Il faut dire que pour sortir du coup du régime d'isolement, la seule condition c'est de collaborer avec la justice. Il n'y a pas d'autre moyen.
Et ce n'est pas juste une collaboration en termes de je poucave ou je donne des infos, mais c'est vraiment je nie tout, enfin une sorte de reniement moral de tout ce qui a été fait avant, de vraiment plier la conscience et l'individualité du prisonnier, du coup.
C'est ça. Et d'ailleurs, vraiment, ça, c'est le seul moyen, c'est le seul critère qui permet une sortie. Et parce que c'est la seule preuve qu'il peut y avoir, qu'il n'y a plus de lien avec l'extérieur, avec l'organisation à l'extérieur. Ben, comme voilà, on voit les premiers points en commun avec la proposition de Darmanin, ça va être c'est un régime qui dure 4 ans et qui est renouvelable tous les 2 ans. Et pareil pour les personnes condamnées, mais aussi pour les personnes prévenues. Et qui est soumis à ce régime-là, c'est, en fait, la décision est prise par le ministère de la Justice. Voilà, il n'y a pas de limite au prolongement de ce régime-là, c'est-à-dire ça peut être renouvelé à l'infini. Il y a au moins une vingtaine de détenus en Italie qui sont sous ce régime-là depuis 20 ans. J'essaie d'aller un peu vite, mais de rentrer un peu plus dans les détails de qu'est-ce que ça prévoit, ce régime, c'est quoi les règles de ces régimes-là. En fait, parce que vraiment, ça résonne beaucoup avec la proposition de Darmanin. Il a vraiment pris bien ses notes quand il est allé en Italie. Et en fait, pour les personnes au 41 bis, il y a un parloir par mois de 1 heure, séparé par une vitre. Et si les proches ne peuvent pas se rendre dans la prison pour le parloir, l'alternative, c'est 10 minutes d'appel depuis la prison la plus proche. En fait, le proche doit se rendre dans une prison et effectuer l'appel de cette prison-là. Et c'est l'alternative au parloir, c'est soit l'un, soit l'autre. Et il y a 2 heures de promenade par jour. Ça rappelle effectivement ce qui est aussi prévu pour les prisons de haute sécurité. 2 heures de promenade par jour, un groupe de maximum 4 personnes. 4 livres maximum en cellule qui on ne peut pas ramener de l'extérieur, mais qu'il faut choisir, il faut acheter à l'intérieur. Il y a une cellule très petite, je ne me rappelle plus la mesure de la cellule, mais je me rappelle qui est très petite. Hein. Et très, très loin des autres cellules pour qu'on ne puisse vraiment pas s'entendre entre détenus, même quand on crie. Et avec un lit, une table, un armoire, un miroir, une télé accrochée au mur et 2 casseroles. Et on peut, par exemple, même pas... en fait, même les photos qu'on met dans la cellule, elles doivent pas dépasser une certaine taille. Et par exemple, dans le cas d'Alfredo Cospito, un prisonnier qui a fait une grève de la faim de 6 mois contre ce régime-là en 2023, lui, là, il pouvait pas avoir les photos de ses parents à cause de ça, dans la cellule de sa famille. Il a dû lutter pour ça aussi. Et c'est interdit. En fait, c'était interdit de cuisiner en cellule dans ce régime-là. Mais après, en 2019, il y a eu, je ne me rappelle plus dans quelle prison, mais une protestation des détenus au 41 bis contre cette règle-là et qui, du coup, a été enlevée. Là, c'est possible de cuisiner en cellule, toujours sous un régime très strict. Et... il y a un corps de police spécial qui intervient et qui gère un peu les régimes de 41 bis, c'est les GOM, G-O-M, qui rassemblent beaucoup aux ERIS en France et qui sont connus pour leur massacre agi contre la répression des révoltes à plusieurs reprises et à plusieurs moments de l'histoire des luttes des détenus en Italie, et aussi pas que à l'intérieur des prisons, mais aussi à l'extérieur des prisons. Par exemple, le massacre au G8 de Gênes dans la caserne de Bolzaneto. Et voilà, du coup, c'est un régime très strict c'est impressionnant de voir comment vraiment Darmanin s'inspire à ça, parce que c'est vraiment... la torture, un régime de torture en Italie, dénoncé à plusieurs reprises aussi par des organisations, des associations humanitaires internationales, des droits, etc. Et d'ailleurs, Darmanin, il a bien précisé qu'il est au courant de ça. Et du coup, il veut mettre en place un système qui puisse détourner tout type de... interdiction constitutionnelle ou des cours européennes, voilà. Je précise aussi que je pense que c'est important d'avoir quelques nombres aussi dans la tête, comprendre combien de détenus il y a en Italie qui sont soumis à ce régime-là, parce qu'ils sont beaucoup. Et c'est toujours un nombre de personnes qui rassemble à celui envisagé par Darmanin. Et on parle de 12 quartiers de 41 bis en Italie en général, sur 190 prisons. Et en 2025, début 2025, on comptait 738 personnes au 41 bis en Italie. Mais, il y a un mais, après la liste des horreurs, il y a un mais, et c'est-à-dire qu'il y a quand même... malgré vraiment les conditions de détention hyper strictes qui visent à détruire détruire complètement la personne enfermée et détruire tout lien avec les autres et à l'extérieur. Il y a eu des luttes contre ce système-là. Par exemple, la lutte de Alfredo Cospito, qui s'est mis en grève de la faim. C'est un détenu anarchiste qui est en régime d'isolement quarantaine bis depuis 3 ans, je pense, là, oui, ça fait bientôt 4 ans, et qui a fait une grève de 6 mois contre ce régime-là, qui a mené à vraiment un soutien, comment dire, ça a vraiment détruit un peu, il a fait monter le sujet du 41 bis en Italie, l'a fait sortir un peu de partout, et il y a eu des grosses mobilisations aussi à l'extérieur des prisons en soutien à la grève de la faim d'Alfredo, mais aussi voilà, contre le 41 bis. Et on se disait que peut-être on peut lire. Bah, je te laisse présenter. Je vous laisse présenter.
Oui, bah on va lire le témoignage. Il vient de...
C'est la déclaration d'Alfredo Cospito à l'issue de son dernier jugement.
Oui, à l'issue, lorsqu'il a été condamné définitivement à 20 ans d'emprisonnement. Voilà. Et c'est sa déclaration.
Et du coup, on a sélectionné quelques extraits qui parlent un peu des... où il raconte justement tout ce que les conditions d'enfermement du 41 bis provoquent sur la personne.
Qu'on va vous lire en chorale.
C'est moi qui commence. Donc... Je commence. Personne ne devrait mourir isolé dans une cellule, sous l'œil froid d'une caméra qui le filme dans sa chambre, 24 heures sur 24. C'est ce qui est arrivé en juin 2022 à Cosimo Di Lauro. Ce détenu est mort de faim. Il n'était pas en grève de la faim, il avait simplement arrêté de boire et de manger, selon les témoignages que j'ai entendus. Et pas seulement de la part de détenus. Il n'était pas dans son état normal. Un matin, le gardien l'a trouvé mort, surveillé dans sa cellule par une caméra. Son agonie filmée, sans que personne ne lève le petit doigt. Di Lauro n'est jamais allé à l'hôpital, contrairement à moi, qui ai été transporté à l'hôpital au moindre signe de maladie, même si sa vie n'était pas en danger immédiat. Cosimo, simple mafioso, et de surcroît incapable de raisonner et de faire valoir ses droits, a été laissé à l'abandon. Une enquête a été ouverte, des témoignages ont été recueillis, dans celui d'un prisonnier courageux. Mais tout a été étouffé, jusqu'à aujourd'hui en tout cas.
La conviction que je me suis forgée depuis un an est que le 41 bis n'a pas pour objectif réel de briser le phénomène des organisations criminelles, mais de bâillonner une génération de mafiosi que l'État a utilisée puis trahie il y a 30 ans. Les enfermer ici jusqu'à ce qu'ils meurent, leur fermer la bouche à jamais, et ce de peur qu'une fois dehors, les sombres secrets de la République ne soient révélés. C'est, comme je l'ai dit, le secret de Polichinelle qui se cache derrière l'intouchabilité de ce régime.
Le 41 bis sera levé lorsque le dernier témoin gênant de cette époque sera mort. À condition, bien sûr, de ne pas l'étendre au reste de ce qu'il est convenu d'appeler la justice. Car la barbarie a tendance à se répandre et elle peut devenir incontrôlable. Entre la mafia et l'État, beaucoup de similitudes. Volonté hégémonique, monopole de la violence, hiérarchie, autoritarisme. Mais une fois sur place, je me suis rendu compte qu'en plus de ces caractéristiques communes indéniables, il y a une sorte de péché originel qui a besoin d'un système liberticide comme le 41 bis pour maintenir les morceaux ensemble, sans quoi le système dans son ensemble s'écroulerait. C'est précisément l'intouchabilité du 41 bis devenu le centre névralgique de tout le système démocratique totalitaire, le vrai visage de la République italienne.
Depuis que je suis au 41 bis, je n'ai pas touché un brin d'herbe, un arbre, une fleur, seulement du ciment, des barreaux et la télévision. Au cours des derniers mois, je n'ai pu acheter qu'un seul livre, avec beaucoup de difficultés et uniquement parce que les médias parlaient de moi. Les parloirs ne se font qu'une fois par mois, avec la vitre et la voix métallique de l'interphone. Mes sœurs et mon frère, qui sont les seuls à pouvoir me rendre visite, doivent recouvrir de pansements leurs tatouages et leurs boucles d'oreilles lorsqu'ils arrivent parce qu'ils pourraient communiquer des messages cryptiques à travers les motifs tatoués. Cependant, ces griefs deviennent ridicules, après ce que j'ai vu au centre clinique d'Opéra. J'ai vu de mes propres yeux l'État prétendre appliquer de manière éthique la loi du talion à des personnes âgées et malades, sans défense et à moitié démentes. ma demande naïve de livres, de musique, de périodiques, anarchistes, scientifiques, historiques, d'une pelouse pour courir et de quelques arbres est devenue risible, presque étouffante. Je m'en rends compte. Abolissez le 41 bis. C'est du coup un texte d'Alfredo Caspito que si jamais vous êtes à l'extérieur, vous pourrez retrouver sur le site Lutter contre le 41 bis, si je m'abuse.
Oui, Lutter contre le 41 bis, point nos blogs.
Aussi, peut-être, juste on en profite pour rappeler qu'on a fait une émission, du coup, comme tu disais, Maria, tout à l'heure, sur justement la grève de la faim d'Alfredo Caspito. Et donc, on avait aussi parlé, présenté un peu, discuté c'était quoi le 41 bis. Et cette émission, c'était le 26 février 2023. Vous pouvez la retrouver sur le site de Radio Galère. Il y a tous nos podcasts. Régalez-vous. Et celui-là en particulier, du coup, ça explique un peu plus en profondeur c'est quoi le 41 bis. Et c'est. Ouais.
Il y a même une petite BD faite par Zoro Calcar qui parle un peu du sujet, encore lui. Et sinon, à propos d'anciennes émissions, on a déjà fait une émission sur ce qui s'était passé sur la grève de Maton et tout ce qui s'était passé autour de l'évasion de Mohamed Amra. j'ai pas la date en tête, mais elle se retrouve si vous cherchez un peu. Et enfin, c'est important de se rendre compte que en vrai, les Matons, c'est vraiment une corporation, qu'ils ont vraiment un esprit de corps. Et que la grève, ça marche même quand c'est nos ennemis et que ça fout vraiment la haine, mais qu'ils ont réussi à faire énormément de bruit avec cette histoire et que maintenant, on en subit les conséquences, quoi. C'est un climat qui a participé à faire qu'on ait des lois répressives comme ce qu'on vient de vous énumérer de manière dense en début d'émission. Et que c'est flippant de voir un État qui commence à être contrôlé par les grands syndicats de sa milice, de sa force armée, quoi. Que ce soit les keufs ou les matons, ça fait flipper.
Et du coup, ce qui est sûr, c'est que pour les conditions de détention, comme tu le disais bien, ce qui s'est passé avec un peu le 41 bis, c'est qu'on met au début des mesures d'exception, qui étaient un peu pour les terroraux il y a quelques années, qui maintenant sont en train d'être installés pour les narcotrafics. Alors ouais, on pense qu'il y a tout le truc. Il parlait de mexicanisation. Je suis sûr que les Mexicains, ils vont être hyper fiers de ça. Enfin, je suis désolé pour eux. Mais du coup, c'est un peu toutes les nouvelles conditions qui, au fur et à mesure, ruissellent et qui finissent par arriver sur tous les détenus. Ou un peu comme essayer de capter les communications sur les messageries cryptées. C'est aussi en fait un peu des conditions de surveillance et d'incarcération qui s'appliquent au fur et à mesure à tout le monde.
Voilà. Le même régime de 41 bis en Italie, à partir des débuts des années 2000, il a été élargi aussi aux catégories de détenus terroristes liés à des faits de terrorisme, accusés de terrorisme en tout cas. Donc ça s'élargit aussi. Dans ce sens-là, c'est la raison pour laquelle, par exemple, Alfredo, camarade anarchiste, est au 41 bis.
On va bientôt devoir laisser l'antenne parce qu'il y a une émission juste après nous. Peut-être si on veut faire. Si quelqu'un veut dire un dernier mot, après, peut-être on enverra un peu de force et on laissera l'antenne.
Voilà. Bah, en vrai, on n'a pas trop le temps de creuser le sujet, mais peut-être un big up aux meufs trans incarcérées américaines qui vont devoir changer de prison parce que Trump fait de la merde peut-être qu'on développera un peu une prochaine fois, mais qui est en train de changer leur statut. Un gros big up à vous, même si vous en écoutez sans doute pas Radio Galère, mais du coup big up à toutes les personnes qui nous écoutent depuis l'intérieur. Et
gros big up à Vivi aussi, on pense fort à toi et tous les potes qui nous entendent et toutes les personnes enfermées, leurs proches.
On espère que t'as pu avoir une radio.
Grave.
Qui sait.
Ouais, big up, vraiment force à tout le monde. Merci à tout le monde qui est venu pour l'émission, c'était trop cool. Enfin, ça fait plaisir quand il y a du monde comme ça.
Merci à la courte échelle d'exister.
Et puis, vous pouvez toujours nous écrire. Nous, on vous envoie toujours de la force et on vous répondra toujours. Et on enchaîne sur une musique envoyée par une personne anonyme. Cette musique, c'est Nico Pandetta, Pistole nella Fendi. Voilà.
On vous dit à la semaine prochaine.
On est sur ça.
Ciao.
À la semaine
ciao.
Prochaine.
Ciao.
Ciao. Ciao. Force d'ici là.
JJ,
maresciallo non ci prendi, pistole nella Fendi, le dice sol peor, un bandi, mon amour, fanno i video coi ferri, poi chiamano gli agenti, mone sopra l'iPhone, se la vi sempre tu, maresciallo non ci prendi, un'ora se stipendi, sono con la mia fam, dentro il club, coca e rum, compro tre appartamenti, pago in pezzi da venti, è tutto Total Black, se Moncler, che è il mio tour. In strada sempre in tuta, l'amore non si giura, quello che dico è vero tranne quando sto in questura, pacchi pieni di mula, per mio frate una cura, vende su un S.A. che non ci parla con la pula, fanno vro su una Bentley, pistole fanno ratata. Gang shit, due rolle sotto node, marraffari sporchi, quei fra scappati a Malaga, lei conta i soldi, io tolgo lo ski mask, maresciallo non ci prendi, pistole nella Fendi, le dice sol peor, un bandi, mon amour, fanno i video coi ferri, poi chiamano gli agenti, mone sopra l'iPhone, se la vi sempre tu, maresciallo non ci prendi, un'ora se stipendi, sono con la mia fam, dentro il club, coca e rum, compro tre appartamenti, pago in pezzi da venti, è tutto Total Black, se Moncler, che è il mio tour, contanti a volontà, non serve più che chiami i miei contatti a Bogotà, addosso 100.000 quando torno giù in città, tappeto rosso sulle scale delle popolari, sto pensando a domani, mi fermo a posto di blocco, blocco, vuole solo una foto, foto, 3 anni fa mi ricordo solo che il mio conto era vuoto, ora partita vinta, non mi serve una spinta, odio che la tua diva vinta. Maresciallo non ci prendi, pistole nella Fendi, le dice sol peor, un bandi, mon amour, fanno i video coi ferri, poi chiamano gli agenti, mone sopra l'iPhone, se la vi sempre in tour, maresciallo non ci prendi, un'ora se stipendi, sono con la mia fam, dentro il club, coca e rum,